Nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Le plaisir. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.
Le cordon de la sonnette.
Entrez.
Une bonne entrée.
Vite, Marie. Prévenez monsieur et madame. Les invités arrivent. Prévenez aussi les domestiques pour les bagages.
Dis, se tapa sa robe, se passa les mains sur ses cheveux et sortit.
Elle trouva dans le couloir sa mère et son père. Ils allèrent tous deux descendre pour aller à la terrasse recevoir leurs invités.
Lynn s'arrêta au pied du perron. En sortit, en premier, monsieur et madame de Condorcet, puis le grand-père, Alban, sa sœur, et en dernier, son frère. Le voyage les avait tellement secoués que les salutations furent abrégées. Les domestiques prirent les bagages pour les mener dans leur chambre.
« Oh, quel voyage, mes amis !»
dit Edmond de Condorcet.
« Venez vous asseoir, venez !» Nous allons vous mener dans vos chambres.
Vous pourrez vous y reposer, dit monsieur d'Ancourt.
Merci.
Tu me reconnais, cousin?
Oui, bien sûr, tu es Odile. Hippolyte.
Hippolyte.
Bonjour, dit le frère d'Odile.
Bonjour, Charles Alexandre.
Je présente Agathe, une amie de ma sœur. Mademoiselle.
Mais nous connaissons, je crois.
Monsieur Vouy était enfant. Lorsque nous étions enfants, nous jouions ensemble. Alban se trouvait dans sa chambre. Il rangeait son nécessaire toilette sur sa table de toilette, dans un angle d'un mur. Comme les autres membres de sa famille, le voyage l'avait fatigué. Il se disait qu'Odile était bien belle, et même très belle. Il se demandait comment ça n'était pas aperçu jusqu'à présent. Hippolyte était dans sa chambre, à côté de celle de son frère. Il s'était allongé sur son lit. Le voyage l'avait fatigué et donné mal à la tête. On a frappé à la porte. Oui, c'est moi, Charles Alexandre. Tu n'as besoin de rien? Non, merci. Je me repose. J'ai mal à la tête. Je connais un moyen efficace pour te soulager tes douleurs, si tu veux. Tu peux rentrer? Oui. Il entre. Il s'approche du lit. Tu es allongé, c'est bien. Attends, la lumière du jour entre trop fortement dans la pièce. Je vais fermer les volets. Hippolyte resta allongé et voyait son cousin aller vers la fenêtre. Il regarda la démarche ferme et volontaire, son corps énergique, grand et mince. Voilà, les volets sont fermés. Tu pourras mieux te détendre. Il s'approcha du lit. Maintenant, je vais te masser le front. Il s'assoit sur le rebord du lit. Et il se mit à lui masser le front. Ceci détendit Hippolyte. Sa tête lui faisait moins mal. Tout son esprit était fixé sur les doigts qui étaient sur son front. Les doigts fermes et chauds l'enivraient. À un moment, Charles Alexandre se pencha un peu plus. Hippolyte se sentit envahi par le corps de son cousin. Ce corps presque plaqué contre lui, ce visage, ses lèvres, ses mains sur ses tempes, cette chaleur
cette odeur douce et délicate. Tout ceci donnait le vertige à Hippolyte. Et pour la première fois de sa vie, il a envie de plaquer un corps contre lui. Son visage était rouge. Il avait très chaud. Ses paupières étaient mi-closes. Il était gêné par le visage qui était contre lui. Ses bras étaient le long de son corps, plaqués contre les draps. Tout son corps se raidissait pour ne pas s'abandonner. Tout à coup, il sentit son sexe qui se raidissait. La peur que son cousin s'en aperçut le fit encore plus rougir. Mais le mal de tête était passé. Charles-Alexandre s'aperçut de la rougeur du visage d'Hippolyte. « Tu n'es pas bien ?» Hippolyte ouvrit les yeux et dit à beaucoup de peine. « Oui, ça va. Te remercie. Je n'ai plus mal. » Tout ceci n'avait duré que quelques minutes, mais avait paru un siècle à Hippolyte. « Tu es en sueur ?»« Oui, j'ai chaud. » Je détendis un peu. « Tu es trop habillé, chaudement ?»« Je sais, mais je suis de santé fragile et l'apport des courants d'air. »« Allons, transpirer, c'est encore plus mauvais. Habille-toi comme moi, en pantalon et chemise d'été. » J'en ai pas. Je te prêterai les miens. Merci. Tu sais, je vais m'occuper de toi pendant ton séjour ici. Nous avons à peu près le même âge. Mais qu'est-ce que tu fais enfin? Ma presque envie, c'est de te couver. Tu es fort. Toi aussi, tu es fort. Mais tu cherches trop à être dépendant des autres, ce qui fait que tu es devenu comme un verre de cristal. Le moins de son, le moins de bruit, le fait vibrer et risque de le briser. Il se relève et s'allonge à côté d'Hippolyte. Hippolyte sentit un grand froid, adieu douceur, force et parfum. Mais non, Charles-Alexandre était couché à côté de lui. Oh! Que l'on est bien. La chaleur s'est rafraîchie, la chambre s'est rafraîchie et même les draps sont froids. Oui, l'on est bien. Tu sais, je suis amoureux. Le corps d'Hippolyte battit très fort. Il ne comprenait pas pourquoi il battait si fort. Amoureux? Oui, elle est belle comme le jour. Hippolyte sentit son corps se serrer. Ses cheveux sont blonds et fins, son corps délicat. Qui est-ce? Tu la connais, c'est Agathe. N'est-elle pas belle? Oui, elle est très belle. Très belle. Hippolyte, sans savoir pourquoi, avait envie de pleurer et de se blottir contre son cousin. Oh, pardonne-moi, je suis comme tous les amoureux, égoïste. Je t'ennuie peut-être, et toi? Moi quoi? Tu es amoureux? Moi non, il rougit. Tu deviendras un jour. Peut-être, je ne sais pas. Ils restèrent quelques minutes sans parler. Tout était calme, silencieux, à travers les persiennes, on pouvait voir le jour décliner. Ô douceur, comme on aimerait rester éternellement ainsi.
tout oublié. Toujours comme ça.
Il faut se lever. Il est temps de nous préparer pour le repas du soir. Et oui, nous sommes à la campagne ici. Et nous dînons tôt. Nous prenons cet horaire, c'est pour ne pas gêner les domestiques qui sont pour la plupart des gens du pays. Alexandre se lève et met la main sur la cuisse gauche d'Hippolyte. Allez, debout paresseux. Tu vas voir, moi, je vais m'occuper de toi. Et il se dirige vers la sortie de la chambre. Met la main sur la poignée de la porte, se retourne et dit « Tu sais, je t'aime bien, et même mieux qu'un cousin. » Puis, il sort. Hippolyte restait quelques minutes allongé sur son lit. Sa tête bouillonnait. Tournait. Il ne savait plus où il en était. Il avait grande envie de se masturber. C'était nerveux. Chaque fois qu'il avait une grande émotion, cela venait. C'était une autodéfense à lui contre les attaques du monde extérieur. Cela lui permettait de se replier sur lui-même comme un escargot dans sa coquille et de refuser ce qui était inacceptable. Il se déculotta. Sortit son slip, son sexe ferme et rougit, plein de vie. Il mit la main dessus. On frappa à la porte. Hippolyte se sortait. C'est moi, Charles-Alexandre. Attends, n'entre pas. Qu'est-ce que tu fais? Non, rien. Bien alors, je peux rentrer? Attends une minute. Vite. Ferme le bouton de son pantalon, essaie de cacher la bosse que fait son slip, son sexe. Voilà, tu peux entrer. La porte s'ouvre. Mais qu'est-ce que tu fais encore au lit? Rien, je me levais. Tiens, je t'ai amené un pantalon ou une chemise. Tu seras mieux qu'avec tes vêtements. Merci. Tu as besoin de quelque chose ou de retouches, demande à la femme de chambre. Tu es gentil, c'est normal. Bon, prépare-toi. Nous dînons dans 5 minutes. Ne te trompe pas. Mets ton smoking. Oui, d'accord. Allez, je te quitte. Alban sort de sa chambre pour aller dîner. Il va frapper à celle de son frère.
pour le prévenir de descendre. Tu es prêt?
Oui, entre.
Non, nous n'avons pas le temps. Il faut descendre. Nous n'avons pas le temps de discuter.
Mais non, viens. Viens me faire mon nœud de cravate.
Alban entre. Faudra bien que tu apprennes un jour à le faire. Allez, donne-moi. Donne-moi ça.
Une fois qu'il a fait son nœud de cravate, il sort.
Ils sont sortis de la chambre. Et retrouve sur le palier Odile. Alban est ébloui par cette apparition. Oui, il est ébloui par cette apparition. Elle est si belle. On dirait une clarté dans la pénombre du couloir. Dans une robe longue et blanche, les cheveux noirs et longs.
Vous descendez, cousin?
Oui, dit Alban. Avec le visage, les yeux, les lèvres d'une personne qui vient de voir une apparition. Et s'aperçoit de son trouble et lui dit
« Moi, je vais chercher Axel. »
Et elle s'éloigne.
Le dîner se fit dans la grande salle à manger. Le repas fut magnifique. Les dames en cour, en plus des Condorcet, avaient invité quelques intellectuels du département, le préfet, l'évêque, quelques médecins, maires et notables et nobles. En tout, 80 invités, 80 couverts. Alban était assis à côté de sa cousine. Son frère à côté d'Agathe. Agathe portait une robe bleu pâle. Elle était très belle. Charles-Alexandre, qui se trouvait en face d'elle, la comparaissait à une fée. Il était à côté d'Axel. Axel, dans sa robe rouge, se sentait fragile et seul. Il se demandait ce qu'elle faisait ici, au milieu de tout ce monde. Ce monde qui pouvait lui apporter la chaleur dont elle avait tant besoin. Agathe rougissait. Voyait que Charles-Alexandre la regardait. Charles-Alexandre était pour elle un camarade sans plus. Elle se pencha vers Hippolyte et vit qu'il avait des difficultés à découper sa viande. Elle eut envie de la lui couper. Agathe connaissait depuis son enfance Hippolyte. Elle l'aimait. Mais elle l'avait vu qu'en de très rares occasions. Cela lui avait suffi. Son amour s'était révélé avoir un côté maternel et un besoin de dominer. « Est-ce la viande ou le couteau qui ne va pas ?» dit-elle. « Je ne sais pas. Je voudrais bien Mais au milieu de ce monde, merci. Albin regardait Odile. Il avait envie de son corps. Odile regardait Albin et ce trouble passé revenait. Ne mangez pas, cousine. C'est guère faim. Et puis les grands repas m'ennuient. Même lorsqu'ils sont à votre honneur. Surtout cela. J'ai tenu à me marier ici. C'est pour pouvoir échapper à tout ça, à toutes ces corvées. Ma famille a des principes. Pourquoi ce repas? À quelques jours de mon mariage. Ça fait trop. Allez en soirée. Cela vous donne toujours autant de migraines. Vous vous souvenez? Oui. Vous savez que c'est grâce à vous que je me suis mariée. Elle rougit. C'est la honte de ce qu'elle venait de dire. De parler trop vite. Voilà où ça vous arrive, où ça vous amène. Oh, et puis tant pis. Quelques confidences entre cousins. Hein? Comment? Vous étiez si séduisant ce jour-là. Il lui dit que vous en avez choisi un autre. Albin se dit que ce serait pas si difficile que ça. Oui, cela ne se fait pas entre cousins, même si c'est du côté de la famille maternelle. Vous aimez votre fiancée? Elle rougit. Oui, je crois. Je crois. Cessons de ce bavardage, voulez-vous? Je vais me marier, un point c'est tout. Comme vous voudrez, mais c'est pas moi qui ai engagé la conversation sur ce sujet. Oui, je sais. Et puis, il fait si chaud. Ce repas qui n'en finit pas. Et ce monde. Cela joue sur les nerfs. Et sans compter ce que j'ai à faire, les préparatifs du mariage. Oui, je comprends. Vous comprenez? Oui. Merci. Vous êtes un homme. Et surtout, vous comprenez. Je comprends parce que j'aime les femmes. Je sais que pour vous, rien n'est anodin. Vos fibres nerveuses sont plus sensibles que les nôtres. Ce qui fait que vous ressentez plus fortement les contraintes de la vie. Si vous saviez ce que c'est que le mariage pour une jeune fille, une femme, allons du courage. Et puis, soyez un peu plus gai. Gardons notre âge et un peu d'innocence. Oui, vous avez raison. Albin avait de plus en plus d'amour et de plus en plus envie de faire la conquête de sa cousine. Hippolyte n'avait Dieu que pour Charles Alexandre. Demain, la journée était encore très belle. Albin allait sortir de sa chambre pour faire une promenade dans le parc.
Il veut sortir avant de prendre son petit déjeuner. Il ouvre la porte
et rencontre dans le hall d'entrée Odile. Bonjour cousine.
Bonjour cousin.
Vous sortiez?
Oui, il fait si beau que j'ai eu envie de faire une promenade.
Moi aussi. Elle voit son sourire. Un sourire avec des blancs si blanches.
Oh, mon Dieu!
Elle lui sourit. Allons ensemble si vous voulez, dit-il. Si vous voulez. Eh? Ils sortent.
Le ciel était bleu, sans nuages. L'herbe avait encore sa rosée. Il sentait dans les narines une douce odeur de bois mouillé. Ils allaient dans la direction du petit bois qui se trouvait derrière le château. Alban n'avait pas osé prendre le bras de sa cousine.
Quand aurons-nous l'honneur de voir votre futur époux?
Seulement le jour de notre mariage.
Et quel effet cela fait-il de vous marier? Êtes-vous heureuse?
Elle rougit.
Oui?
Tout à coup, elle se met à crier.
Oh!
Et à se cramponner à Alban. Elle devenait de voir sur le chemin un hibou mort, envahi par des fourmis. Alban la serra très fortement et l'emmena plus loin. Elle tremblait de tout son corps. Un poids si chaud, si doux, abandonné contre lui. Il perdait la tête et lui prit le visage entre ses mains et l'embrassa. La peur qu'elle avait eue, la rapidité du geste d'Alban l'avait empêché de réagir, de comprendre. Mais ce baiser si doux, si pur, si chaud, si long. Elle avait envie, durant le baiser, qu'il lui caressa les seins. Après, se regardèrent sans rien se dire. Elle s'éloigna de lui, défroissa sa robe et continua son chemin. Il la rejoignit, n'osa pas se regarder. Pour la première fois, Alban était intimidé auprès d'une femme. Peut-être à cause qu'elle était sa cousine. Marchèrent pendant quelques minutes sans rien se dire. Puis, trouvant la situation insupportable, il lui dit « Rentrons, cousine, il est temps. » Hippolyte, en se levant ce jour-là, semblait tout excité. S'était passé tellement de choses dans la journée.
dans la journée d'hier. Et puis c'est Charles Alexandre.
À sa chemise de nuit.
Il était nu dessous et alla au cabinet de toilette
qui se trouvait dans le renfoncement de la pièce. Se lava le visage et les bras. Puis, alla s'habiller.
Il mit son caleçon
et vit sur la chaise le pantalon blanc que lui avait prêté Alexandre. Cela le troublait beaucoup. Il le prit l'examina.
Il a vu qu'il avait déjà servi. Une envie folle le plaqua contre son visage. Son sexe se durcit. Il enfila délicatement le pantalon. Cela le fit frémir. Le boutonna. Et alla vers l'armoire à glace. Il se vit le visage rougi, le torse nu et les pieds nus. Et surtout le pantalon, ce pantalon. Son regard ne pouvait plus que se poser que sur le pantalon. Il ne voyait que le pantalon. Le pantalon de Charles Alexandre, ce pantalon qui recouvrait, qui moulait les jambes, son ventre, Hippolyte ne savait plus, le pantalon ne recouvrait plus les jambes d'Hippolyte, mais celles de Charles Alexandre. Il avait chaud, ses mains se mirent à caresser le pantalon. Ça lui faisait un plaisir immense, extrême. Ses mains allaient et venaient doucement, fermement, sur les jambes, le ventre, les fesses. Il était devant la glace et il voyait ses mains qui étaient les siennes, mais ses jambes, les fesses, son sexe, n'étaient plus à lui, ils étaient à Charles Alexandre. Ce qu'il ressentait, c'était Charles Alexandre qui le ressentait. Hippolyte était lui et Charles Alexandre. Il était lui et son partenaire. Il ressentait en même temps ce que Charles Alexandre avait pu ressentir. Il déboutonna sa braguette. Non, la braguette de Charles Alexandre. Ressentir son sexe, le sexe de l'autre, se voir dans la glace, faire ce geste, cela le fit frémir. Ce sexe, le sexe de l'autre, sans s'en apercevoir, il avait joui. Vite,
Elle a se nettoyé au lavabo.
Cette excitation pour un garçon si tendre, si fragile. Tout simplement parce que c'était son premier été de transformation sexuelle adulte. Hippolyte avait été très en retard dans son développement physique. Il était blond, pâle, avait un côté anémique et même de race. La transformation des organes sexuels chez l'enfant mâle en organes adultes excite beaucoup l'enfant. Il a de grandes difficultés pendant un certain temps à dominer ses envies. Car il ne faut pas oublier, c'est que les premiers désirs de l'organe adulte sont beaucoup plus grands et forts que ceux d'après. Et le plaisir aussi est beaucoup plus grand et fort et plus long. Tous ses désirs sont fixés au début sur son propre sexe. Il devient narcissique pendant quelque temps. Il ne cherche pas la compagnie d'autres personnes. Son érotisme, il se le fait lui-même, car il ne se reconnaît plus. Ne reconnaît plus son corps, se voit et le trois transformé. Lorsqu'il se touche, c'est comme s'il touchait une autre personne. Cette transformation est surtout visible pour lui par la transformation du sexe qui a grandi exagérément et qui est devenu énorme par rapport aux proportions du corps. Et les poils qui l'entourent accentuent encore plus sa présence et sa grandeur. Ensuite, le corps, en grandissant, permettra à donner à son sexe une dimension plus normale. Cette période rend la personne solitaire et mélancolique. Puis, petit à petit, il recherche des partenaires. Et sans être homosexuel, il recherche par désir de savoir des personnes de son sexe pour savoir si l'autre est comme lui et pour pouvoir se confier. Hippolyte est donc dans cette période, mais ne s'en rend pas compte. Vu son âge et ses connaissances, mais sans expérience, il prenait ses désirs physiques pour de l'amour et croyait aimer Charles-Alexandre. Pour un enfant qui a des désirs physiques, il ne se pose pas de questions, c'est purement physique et ne mélange pas sentiments et besoins sexuels. Lorsque la transformation sexuelle se fait après l'enfance et que au début de l'adolescence, cela est autre. Vu que la personne est plus cultivée, civilisée ou plus ou moins, disons, moins primaire. Roman d'amour, vice et morale. Les sentiments sont plus développés. Il faut que son désir soit auréolé de sentiments qui le rehausseraient de son côté bestial. Il a peur à un retour du primitif. qui est pour lui un retour à l'instinct, à la domination physique. En tout cas, pour les jeunes gens de cette époque, parce que pour ceux de notre époque, malheureusement, ça n'aurait aucunement important de retourner à l'instinct primaire. Donc, à cette époque-là, donc, puisque la chair de son cousin avait inconsciemment éveillé la chair d'Hippolyte, Hippolyte croyait aimer Charles-Alexandre. Comme la personne que l'on aime doit être digne de son autre amour, l'on recherche ses qualités. Et c'est en recherchant ses qualités qu'Hippolyte en devient amoureux pour de vrai. Hélas, ses désirs, ses besoins lui faisaient peur, il en avait honte. Il se disait que c'était des désirs bestiaux et contre nature, qu'il ne devait en aucun cas aimer son cousin. Il aurait aimé une autre personne, c'est-à-dire une personne de l'autre sexe. Hélas, son corps était pris. L'amour et le désir étaient plus forts. Pourtant, il luttait physiquement et moralement contre ses désirs et amours. Il voulait à tout prix retrouver sa tranquillité et son innocence. Il avait honte de lui-même et se sentait à cause de son amour à part les autres. Cela le forçait à lutter moralement, à se replier sur lui-même. Chaque fois qu'il se masturbait en pensant à son cousin, il en ressentait de l'horreur et se prenait pour un monstre. Et pourtant, il aimait son cousin. Il ne pouvait s'empêcher de l'aimer et d'avoir du plaisir à le voir. Hippolyte était assis sur une pierre au bord du lac. Il était tout de blanc vêtu. Avec la blondeur de ses cheveux, la couleur de sa peau et ses vêtements, tout était illuminé par le soleil. Lumineux comme cela, il était beau. Il ne bougeait pas. Ses yeux étaient dans le vague. Un couple de cygnes vint à passer. Il était aussi blanc et lumineux. Il passait sur le reflet d'Hippolyte et vit que leur blancheur, leur lumière étaient les mêmes que les siennes. Hippolyte eut l'impression étrange que son âme partait avec ces deux cygnes.
Nous vous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Le Plaisir. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.